sont-ils les symptômes ?
Des endroits dans lesquels on habite, plus rien ne paraît pouvoir être encore qualifié de sain.
LSD, la série documentaire « Maladie chronique, ce qui nous traverse » par Alice Le Filleul, réalisation Julie Bérécy, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
On se retrouve demain à 14h pour la table ronde d'actualité d'Entendez-vous l'écho. Nous nous demanderons qu'attendre des politiques de rénovation énergétique, relance de la croissance ou lutte contre la précarité. Mais tout de suite, il est 15h. Bonjour Marie.
Oui, bonjour Aliette, on est en train de faire vraiment du bricolage.
Qu'est-ce qui se passe?
Bon, c'est mon invité, on prépare un petit jeu et du coup, je suis en train, en même temps que je vous parle, parce que je suis très multitâche comme personne, de noter des mots. Voilà.
Et ben, c'est tout à votre honneur.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un livre réjouissant, comme chaque jour, mais il y a une opération jeu qui consiste à créer des textes courts, des fables à partir de tickets de caisse.
Très bien.
Voilà, on est là, on s'amuse quoi.
Oui, j'aimerais bien voir ça, mais j'ai la vision.
On va essayer de rendre ça audible, sonore.
Et ben bon courage.
Merci beaucoup.
À demain.
Bonjour le Book Club.
L'investiture de Barack Obama.
Anne-James Chaton, j'ai lu Fab il y a quelques semaines et j'ai été sincèrement amusée et séduite par votre inventivité. J'avais déjà beaucoup aimé l'affaire La Pérouse. Vous avez eu cette idée étonnante, curieuse et ambitieuse d'offrir au ticket de caisse un prolongement littéraire, des historiettes de quelques lignes.
Jean-Marc B dit, il faudrait que les sensibilités se fédèrent. Jean-Marie B dit, on se voit et on se parle. Larry B dit, nous espérons aussi faire une bonne affaire au passage.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Ces derniers temps, pour des raisons mêlées d'écologie et d'économie, on vous demande régulièrement à la caisse si vous voulez garder le ticket. Pendant plusieurs années, l'écrivain et performeur Anne-James Chaton ne s'est pas contenté de répondre oui. Il a aussi demandé à des amis de conserver certains tickets obtenus lors de voyages et en a conçu une petite collection. En ne ponctionnant que certains mots imprimés sur ces tickets ou le champ lexical attenant, il écrit un court texte à partir d'eux. Cela donne Fable, un recueil de ses textes publiés en vis-à-vis des tickets qui les ont inspiré. Anne-James Chaton est notre invitée pour parler de ce livre. Ensuite, comme chaque semaine, nous prenons des nouvelles de la littérature en dehors de nos frontières grâce à la rédaction internationale de Radio France. En Autriche aujourd'hui, où la prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek voit enfin rejoindre sa pièce Burgtheater 40 ans après sa création chahutée. Et puis on cherchera de la musique dans les livres avec vous pour le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Bienvenue tout le monde dans le Book Club. Anne-James Chaton, bonjour.
Bonjour.
Votre livre Fable a paru aux éditions POL. On est ravis d'en parler aujourd'hui. Bienvenue au Book Club.
Merci de me convier.
Vous êtes souriant, ça fait plaisir.
Oui, je suis content d'être avec
vous. Oui, c'est ça, exactement. Nous aussi, on est content que vous soyez là. Ici, tout commence par un questionnaire lecture. On a l'habitude de faire connaissance avec nos invités par leur vie de lecteur ou de lectrice. Oui. Et souvent, on se demande comment ça a commencé, cette histoire. Est-ce que vous auriez grandi, Anne-James Chaton, dans un endroit où il y avait des livres autour de vous?
Oui, il y avait beaucoup de livres, mais il y avait beaucoup de livres en langues étrangères. Mm-hmm. Je ne parlais pas encore à l'époque. Il y avait des livres en allemand, en latin, en grec, en russe, certains aussi en arabe, parce que mon père était un... C'est ce qu'on appelait un littéraire, et il avait une passion pour les langues étrangères et les langues orientales. Donc voilà, la bibliothèque était constituée de toutes ces langues, pour
une
part.
C'est une passion qui le rendait polyglotte ou pas spécialement?
Oui, parce qu'il les parlait.
Ouais.
Il les lisait, pour certaines, il les parlait. Oui, il était polyglotte. Il y avait une autre partie de la bibliothèque. J'étais élevé aussi par ma grand-mère. Et alors, elle avait une autre passion qui était les écrits du général de Gaulle.
Ok, deux salles, deux ambiances.
Voilà. Donc, le salon se partageait dans une espèce de bibliothèque étrange, comme ça, où se côtoyaient toutes ces langues et tous ces écrits, parce que je ne sais plus combien de tomes ça fait, les écrits de Gaulle, mais enfin, ça remplit une grande bibliothèque.
Mais alors, vous mentionnez que vous ne lisiez pas encore. À partir de quand vous avez pris conscience que vous étiez au milieu à la fois d'une bibliothèque remplie de langues étrangères et des écrits du général de Gaulle? Est-ce que vous regardiez ça? Est-ce que ça vous intéressait?
Oui, et je pense que ça tient aussi à mon rapport à l'écriture que je travaille dans l'écriture elle-même, dans la littérature et dans d'autres champs. Je crois que j'ai conservé un premier rapport visuel, plastique à l'écrit, c'est-à-dire à ses mots et à ses graphies, dont je savais que c'était de l'écriture, mais que je ne pouvais pas déployer, comprendre. Et je crois que ça a été constitutif de mon rapport à la lecture et à l'écriture.
Et vous pensez que ça induit quoi, par exemple? Ça veut dire que... Est-ce que vous diriez que ça vous rend un peu détendu par rapport au sens? Non, mais c'est-à-dire...
Complètement détendu.
C'est une bonne formule ou pas?
Oui.
Non, parce que quand on a un rapport à l'écriture ou au livre qui passe d'abord par l'impression visuelle que ça produit sur notre corps, ça veut dire que la question du sens et de la compréhension est seconde. Et donc, du coup, ça peut être introduit quelque chose de différent, non?
Oui, mais alors, je dirais peut-être pas qu'elle est seconde, puisque pour moi, elle est première à l'époque. C'est-à-dire que cet aspect graphique de l'écriture, pour moi, c'est le sens premier de l'écrit. Et c'est seulement ensuite qu'arriveront ces autres potentialités, le son et la signification et l'articulation. Mais sans, et ça c'est quelque chose qui est aussi très présent dès le moment où je suis entré en écriture, qui est d'ailleurs assez tardif. Hein.
C'est-à-dire, vous diriez quoi?
J'ai commencé à travailler l'écriture au sens du travail, de la manipulation. J'avais 26, 27 ans. Donc,
Y a des, ça chacun, fait pas une vocation
chacun a ses rythmes,
jeunesse,
voilà.
En effet.
Non, j'écrivais pas de la poésie dans mon enfance ou même plus tardivement. Et voilà, donc il n'y a pas de... Pour moi, finalement, il n'y a pas d'hiérarchie entre ces rapports à l'écrit, qu'ils soient graphiques, sonores, au niveau du sens, au niveau de... Toutes ces manifestations de l'écriture sont devant mes yeux, sont dans une forme d'aplat. Et je vais les manipuler, les agencer.
Presque comme des cubes de couleurs.
Voilà, c'est un peu comme un jouet d'enfant d'ailleurs.
Est-ce que c'est le français que vous apprenez à lire en premier?
Alors, oui, puisque oui, je suis dans une famille qui à l'époque parle quasi exclusivement le français. Mais j'ai également assez rapidement ce rapport aux sonorités, notamment germaniques, puisque mon père me donnait des leçons d'allemand. J'avais beaucoup de difficultés avec la langue allemande. Je viens d'une région qui est la Franche-Comté, qui a des liens très très anciens, du fait de la proximité d'ailleurs, de la frontière avec l'Allemagne. On étudie à l'époque, peut-être moins maintenant, l'allemand comme première langue. Donc j'ai commencé par les sonorités françaises, mais aussi les sonorités
en lisant germaniques.
En lisant l'allemand, ouais. Et en me le faisant lire.
Est-ce que vous avez eu ensuite une passion pour la lecture, puisque vous dites que vous grandissez finalement entre deux êtres passionnés, la grand-mère et le père que vous présentez tous les deux comme l'un passionné de langues étrangères, l'autre passionné de Gaulle. Ouais. Est-ce que ça fait de vous un enfant passionné par les livres?
Oui, mais d'abord passionné par la peinture. Je pense que je suis entré en littérature aussi à cet endroit. J'ai commencé par une passion par la peinture. Je la pratiquais d'ailleurs. Et puis quand je suis rentré en littérature, en accointance avec certaines formes poétiques, notamment russes, ça s'est fait par ce biais-là.
Vous voulez bien détailler, ça veut dire quoi?
C'est une rentrée indirecte dans le champ littéraire et dans le champ poétique. J'étais passionné par les constructivistes russes, Malevitch, Lissinsky, et c'est par eux, auparavant par Gontcharova, les impressionnistes russes. Et c'est par eux que je découvre tout le champ littéraire qui est attenant. C'est-à-dire les Klebnikov, les futuristes russes qui vont arriver ensuite.
Voilà, mais à quel moment de votre parcours? Parce que là, on vous a quitté en enfance, et du coup, je me dis, cet enfant, le même enfant, il est passionné par la peinture?
Ah non, là, c'est pas l'enfant. Non, je suis passionné par la peinture de mon adolescence. C'est-à-dire que j'ai plutôt un rapport à la peinture qu'à l'écriture, ou même à la lecture. Mais cette passion est plutôt vers les 19-20 ans.
Et là, vous vous mettez à lire de la poésie russe.
Alors, je me lis, oui. Mais ça vient aussi du fait que, toujours cette question des langues que je vois, mon père était abonné à la Pravda. Donc, il avait dans la maison des piles de Pravda. Donc, je pense que là aussi, il y a...
Oui, ça rend curieux.
Voilà, il y a un effet. Et c'est vrai que cette Russie-là, en tout cas, m'a fait rentrer dans la littérature. Et après, quand on rentre en littérature par ce biais-là, bah, tout de suite, on arrive aux grandes avant-gardes qui leur sont contemporaines. je découvre très rapidement les Italiens, les futuristes italiens, et ensuite les surréalistes et toutes les grandes avant-gardes poétiques du XXe. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt un rapport graphique, mais que j'ai jamais perdu en définitive. Et encore dans le livre qu'on parlera tout à l'heure, il y a un aspect
bien sûr graphique. Très graphique. Ouais. Aujourd'hui, la lecture tient quoi comme place dans votre vie?
Alors, elle est, c'est ce qui me nourrit, dans le sens où je ne peux, de deux manières, c'est-à-dire que je ne peux pas envisager un processus, rentrer dans un travail d'écriture, si auparavant, et quand je dis auparavant, c'est probablement des années auparavant, je n'ai pas lu. Mm-hmm. C'est ça qui va revenir et qui va lancer un cheminement, un projet d'écriture.
Mais sans que vous sachiez exactement le lien qui se fait entre ce qui va sédimenter de vos lectures et ce qui va ensuite être un moteur d'écriture.
Non, non. Ensuite, ça vient aussi de ma manière de travailler. C'est-à-dire qu'il y a toujours un sous-texte. Il y a toujours une matière écrite, qui n'est pas forcément textuelle d'ailleurs, mais qui peut être graphique, comme on a parlé. Mais il y a souvent un sous-texte qui précède mon texte. Et notamment les derniers ouvrages que j'ai pu travailler à partir de volumens, notamment sur la Terre, le sous-texte étant l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Voilà, c'est de la lecture écrivante. Donc je suis toujours un lecteur écrivant, plus qu'un écrivain.
Alors justement, c'est intéressant de déplier ce que vous entendez sur la lecture écrivante. Ça veut dire que vous lisez et que ça vous met en route, vous lisez, vous prenez des notes, vous lisez et puis 2 ans, 4 ans, 10 ans plus tard, quelque chose de cette lecture ressurgit dans vous qui écrivez. Anne James Chaton, c'est quoi exactement être un lecteur écrivant?
C'est, alors, vous venez un peu d'en décrire toutes les
possibilités.
Toutes les possibilités. Ça comprend une difficulté quand même. C'est que je me rends compte que je deviens un mauvais lecteur. Dans le sens où je m'arrête souvent dans ma lecture. Parce que les écrivains me font écrire. Mmh. Et si je rentre dans une écriture dont je sens que le rythme ou le phrasé ou la matière ou la narration me met
en route,
ça va interrompre interrompt. Je suis un lecteur interrompu.
Oui, parce que vous allez vous lever, ou en tout cas vous allez peut-être pas vous lever, mais fermer le bouquin, ouvrir l'ordi, ouvrir un cahier.
Alors ça va la première étape, ça va commencer par être des notes. Sur le livre. Et en bas, dans les pages blanches, souvent, qu'on trouve à la fin du livre. Souvent, mes livres commencent de cette manière-là. C'est-à-dire qu'ils s'écrivent dans les livres des autres. Mmh. Et puis ensuite, ce qui sera né de cette lecture écrivante va être une recherche plus approfondie sur les thématiques qui auront pu surgir, sur les rites, sur d'autres matières écrites, ou d'ailleurs autres que l'écriture. Ça peut être du son, ça peut être de l'image, pour venir alimenter progressivement cette...
Donc ça veut dire que qui aurait le droit de se promener dans votre bibliothèque, Anne James Chaton, et aurait le droit d'ouvrir les livres que vous avez lus, trouverait trace...
Il trouverait des petits bouts de tous les livres que j'ai fabriqués.
De tous les livres que vous avez fabriqués ensuite.
Oui.
Elle ressemble à quoi, votre bibliothèque?
Je me demande justement si elle peut être parcourue ou lue par quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Parce que c'est toujours difficile de lire après quelqu'un qui a noté ou qui a marqué son cheminement de lecture. Oui. Donc je prête assez rarement mes livres, parce que déjà ils sont le souvenir souvent d'un cheminement d'écriture. Et puis parce que je crois qu'il serait difficile à lire par d'autres, parce qu'ils
ils porteraient trop la trace de votre passage.
Ils seraient sans cesse interrompus dans leur...
Vous avez parlé de ces poètes russes et de ces poètes italiens. Est-ce qu'il y a des noms d'autrices ou d'auteurs que vous voudriez citer comme ayant été des étapes marquantes dans votre vie de lecteur?
Alors, les Russes, enfin toutes les grandes avant-gardes, en quelque sorte, ont constitué un paysage, un socle d'écriture et de lecture. Je mentionnerai, c'est à peine postérieur, ce sont les poètes objectivistes américains, notamment son nom, justement, c'est peut-être tellement important que son nom est en train de m'échapper.
Il reviendra.
Témoignage de Reznikov. c'est voilà, c'est Reznikov ou Zhukovski, l'école américaine, elle m'a, enfin la littérature américaine de ces années-là m'a beaucoup marqué. Les objectivistes, et aussi je lisais en parallèle, je rentrais dans Faulkner, bon, qui apparemment sont des
choses a priori fort distinctes,
mais qui dans leur récit de l'Amérique se retrouvent dans ce qu'ils disent de cette Amérique-là, de l'Amérique des années 30.
Et alors c'était l'Amérique qui vous intéressait, l'Amérique des années 30 qui vous intéressait, ou la manière de la dire ?
La manière de la dire. Mm. C'est-à-dire que quel processus, quel matériau d'écriture l'un et l'autre, à quelle langue, pour ce qui concerne le phrasé, c'est plutôt le phrasé chez Faulkner qui m'a fait plonger dans ces romans. Chez Reznikov, c'est plus la matière qu'il utilise, c'est-à-dire les procès-verbaux qu'il va aller chercher dans les petites cours des cours d'appel des États américains pour fabriquer une histoire, un portrait de l'Amérique.
Et comme ce que vous faites, Anne-James Chaton, que ce soit avec la littérature ou avec le son, aime le mouvement, je terminerai ce questionnaire lecture par un en avant. Est-ce qu'il y a pour vous un horizon littéraire ? Est-ce que vous vous dites « j'ai rendez-vous avec telle ou telle œuvre, je sais un jour que j'irai, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu envie, mais je sais que ça m'attend ».
Une œuvre que je n'aurais pas encore lue.
Oui, mais dont vous soupçonnez que ce sera quelque chose d'important pour vous, à tort ou à raison ?
Je me laisse toujours la possibilité d'être surpris. Mm-hmm. Là, je ne saurais pas répondre. Mm-hmm. Je saurais pas répondre à votre question. Non, je suis dans une période où je me replonge dans la littérature américaine. Je redécouvre ces langues et ces paysages, notamment à travers d'auteurs que j'avais pas parcourus, qui sont comme John Fante. Harrison, je découvre Jim Harrison en ce moment, c'est assez extraordinaire. Mais non, là, je ne saurais pas répondre à la question de savoir s'il y a un auteur. C'est peut-être du côté du théâtre que j'ai très peu lu, qu'un jour je pourrais envisager de me plonger.
On va parler de votre livre Fable, recueil de textes courts écrits à partir de tickets de caisse, juste après ce morceau qui s'appelle Ticket de caisse et qui est signé du rappeur corse, tout jeune rappeur. Il s'appelle Loba. Le morceau ouvrait son album sorti en 2004, lequel album s'appelle L'artiste du village.
Gros, je mets des vitesses à ces rappeurs et leurs 8 caisses. J'suis dans le fourgon, j'tape des lambeaux, j'fais mes dièses depuis le landau. Le rap comme un anti-stress, j'regarde même plus l'étiquette caisse. Avec des couteaux, j'fais des rambos, j'fais mes dièses depuis le. Rien que ça parle de moi, rien que ça parle de moi. J'entends mon nom, mais moi j'm'en tape, j'fais le mort. J'ai foi là, mais j'fais pas l'aumône. J'ai mal aux mains, à force de taf et crap. Si j'rate encore le train, j'pourrais m'arrêter là. J'roule jusqu'à je sais pas où, je vais pas écouter ces Paoli. 5h36, je suis pas au lit, je veux qu'on me connaisse comme Paoli. J'roule jusqu'à je sais pas où, je vais pas écouter ces Paoli. 5h36, je suis pas au lit, je veux qu'on me connaisse comme. J'suis dans la voiture, j'écoute des prods, je fais des rimes pour mes potes. Frérot, me vois-tu à travers la vitre, je pourrais me parer la vite. Mais moi j'aime bien trop la vie, et puis j'aime bien trop la vie. La nuit, tu sais, j'aime plus trop la tease, même plus les rimes, mais tout ce bordel m'attire. Car toutes ces histoires sont infinies, je suis dans un milieu où ma place sera infime. Car beaucoup d'histoires sont impunies, tout le monde peut devenir abruti par un film. Qui de nous deux pourra rester au sommet si on parlait du plus longtemps possible? Tu serais choqué de voir la façon d'agir de certains producteurs qu'ils peaufinent. Gros, j'mets des vitesses, ces rappeurs et leurs 8 caisses. J'suis dans le fourgon, j'tape des lambeaux, j'fais mes dièses depuis le landau. Le rap comme un anti-stress, j'regarde même plus l'étiquette caisse. Avec des couteaux, j'fais des rambos, j'fais mes dièses depuis le.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Quelques mots ou leur lexique prélevés sur des tickets de caisse pour composer une petite fable, voilà l'opération joueuse et littéraire de votre book club aujourd'hui.
plusieurs possibilités et la sensation d'une littérature directement émergée du réel le plus quotidien et prosaïque. Chez un fromager, dans une supérette, au guichet administratif, dans une librairie, un magasin d'outils ou un café, évidemment. Aussi, d'un ticket de caisse pour des allumettes, une bière, des chips nature, des tucs salés et nos gazeuses, naît une micro-nouvelle sur le départ d'un homme à la nature fuyante pour une île au beau milieu de l'océan Pacifique, ça fait rêver. 145 de ces fables sont réunies dans votre livre Fable, paru aux éditions POL. Anne-Jeanne Chaton, un livre qui se place d'emblée dans une tradition de l'art poétique, non sans un trait d'humour destiné à Marcel Proust. On écoute votre introduction. Longtemps, j'ai jeté mes tickets de caisse. Après un bref coup d'œil qui me donnait le sentiment d'en avoir lu toute la prose mercantile, je les froissais et les destinais à une poche avant l'étape finale de la poubelle. Jusqu'au jour où j'ai lu l'art poétique de Boileau. Le poète transcrit en vers et en rime cette règle des trois unités que devaient par la suite adopter les auteurs du théâtre classique. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Se pouvait-il que ces bouts de papier thermique partagent un même destin avec des dramaturges tels que Racine, Molière ou Corneille ? Car chacun de ces reçus respecte cette règle en consignant une date, un lieu et une action, et donc les linéaments d'une comédie ou d'une tragédie. Mes tickets de caisse prirent alors une autre envergure. Je commençais à les collectionner et à imaginer pour chacun un destin littéraire. Un arrêt chez le fromager, du comté, du brie, du chèvre, et je devenais le témoin impuissant d'une rupture amoureuse. Un sorbet à l'orange à la terrasse d'un café, et me voilà mêlée à une sombre affaire de meurtre. Un passage chez Picard à la recherche du dîner du soir me transportait dans une loge de l'Opéra Garnier. C'est le texte d'introduction de Fable, Anne-Jeanne Chaton, et pas tout à fait parce que vous poursuivez la description du processus qui s'enclenche, de l'opération qui s'enclenche. Est-ce que vous voulez bien la détailler un peu plus pour nous ?
Comment cela se fabrique ?
Voilà.
Donc je fais des courses, comme tout un chacun, et je vais conserver le ticket qui m'est... Enfin, aujourd'hui, je suis obligé de le demander. Mais bon, la plupart du temps.
Ou de répondre oui à la question.
Ou de répondre oui, voilà. Ah. Et une fois que j'ai ce ticket de caisse entre les mains, je vais jeter d'abord un regard assez succinct, et ensuite je vais l'étudier et je vais aller prélever à l'intérieur du ticket un premier lexique, c'est-à-dire une liste de tous les mots qui sont présents. Cette liste peut devenir assez conséquente, selon que j'aurais fait plus ou moins d'importantes courses, selon la nature des courses elles-mêmes. Et donc, je vais avoir un lexique de 5, 10, 15, quelquefois...
Vous faites vos propres courses de mots sur le ticket de caisse.
Voilà, tout à fait. Une fois que j'ai ma liste, je vais un peu l'étudier, et puis je vais agencer ces mots de sorte qu'ils commencent à raconter une histoire. La façon dont alors, la nature de cette histoire, si ça va devenir une histoire amoureuse, si ça va devenir une histoire policière, une histoire, un roman d'aventure.
Mais là, vous laissez faire ou vous êtes vraiment actif dans l'écriture, Anne-Jeanne Chaton ?
Là, je deviens actif. Cette action est toujours quand même, il y a quand même un dynamique qui fait que ça peut être les premiers mots qui sont apparus qui vont donner la direction d'écriture. Ça peut être l'aspect visuel du ticket, parce que certains tickets sont assez beaux. Enfin, moi je trouve que certains sont assez beaux de par les typographies que j'utilise, ou même quelquefois les images qui sont imprimées dessus. Et ensuite, voilà, il va falloir. L'opération, c'est essayer de raconter une petite histoire en intégrant à l'intérieur de cette histoire le maximum de mots prélevés.
Donc là, il y a deux choses d'emblée qu'on entend. C'est d'une part votre intérêt. On revient à l'enfant que vous étiez qui regardait presque de façon plastique les livres et la matière littéraire à disposition. Donc, et c'est vraiment ça qu'on a comme sensation en lisant Fable. C'est vraiment l'idée d'une littérature qui est
ponctionné dans le réel, dans le prosaïque. Donc depuis combien de temps vous diriez qu'il y a ce geste-là qui est fait ? Pour l'étiquette caisse et peut-être pour le reste. Et puis l'autre aspect qui arrive immédiatement, c'est que tout ça, on se le raconte en souriant, c'est qu'il y a un aspect très joueur, très ludique à Anne-Sème Chaton.
Oui. Alors, je dois quand même confesser un petit mensonge, c'est que je dis que je me suis mis pour fable à collectionner mes tickets de caisse, mais enfin, ça fait quand même un certain nombre d'années que je...
Ça fait plus longtemps que vous collectionnez les
voilà.
tickets de caisse.
Ça fait plus longtemps que je les collectionne et que je les ai travaillés sous d'autres formes. Comme je vous le disais, une matière écrite peut aller vers la littérature, la musique ou l'art plastique. Et donc, ce travail avec les tickets de caisse, ça fait maintenant 30 ans c'est 30 ans que je les manipule, mais à d'autres endroits. Ça a démarré par des formes plus poétiques, notamment de poésie sonore. Il y a eu des aspects plus plastiques, des objets visuels, pour le coup vraiment plastiques. Mais il est vrai que j'en étais resté dans ces premiers travaux à un matériau très brut, à une donnée informationnelle.
Enfin, non transformée, on va dire.
Voilà. Et qui même désirait cette espèce de froideur. Et
de sécheresse, quoi.
Voilà, d'impersonnalité, de... Et je lis l'art poétique de Boileau, pas celui de Caillou.
Enfin, on y viendra, vous inquiétez pas.
Je lui ai fait un clin d'œil dans les fans, parce qu'il m'a, il est quand même, il a été important dans mon cheminement de lecteur et d'écrivain. Donc j'ai tout à coup, mais ça m'a pris 20 ans de me rendre compte que sur chacun de ces tickets de caisse, là où je croyais qu'on était en face de donner d'une information, des histoires étaient en train de s'écrire, apparaissaient. Il suffisait de les regarder à nouveau, c'est-à-dire de les regarder différemment, d'agencer à peine dans un autre sens les mots qui les composaient, pour que tout à coup surgissent des tragédies et des comédies.
Mais ça veut dire aussi qu'il y a dans ce regard que vous posez sur les tickets de caisse, et j'ai l'impression du coup sur la matière disponible du monde et du réel, un regard qui est nourri à la fois d'un désir de fiction et à la fois de l'idée que le langage est un matériau à disposition comme le reste et qu'il s'agit de l'agencer comme ça, en jonglant avec, quoi.
Oui, je suis. Enfin, notre environnement quotidien, nos environnements, les mondes que nous dans une journée, on traverse plusieurs mondes dans les transports, dans les magasins, dans la rue, dans les rues, dans les transports, etc. Et tous ces univers sont porteurs de traces écrites. Et en les lisant, en revenant à cette idée de la lecture, en les lisant avec un
la lecture au sens du déchiffrement du monde, quoi.
En les déchiffrant différemment, c'est-à-dire qu'en y intégrant une autre intention, mais chacun pour soi. Ça, c'est pas le travail de l'écrivain qui fait ça. C'est chacun peut en les regardant et donc en les déchiffrant différemment, leur faire raconter autre chose.
Mais encore faut-il en avoir
d'autres
envie.
Histoires.
Et c'est ça qui m'intéresse, Anne-Jem Chaton, c'est qu'on sent que dans le regard que vous posez sur le ticket de caisse ou sur le reste, il y a un désir de transformation, où il y a un désir, quand vous dites « je vois apparaître la fiction », mais pour moi, il y a un désir de fiction, il y a un désir d'agent, parce qu'on pourrait ne rien en faire, vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, on n'en fait rien, tant que, peut-être parce qu'on pense qu'on ne peut rien en faire.
Voilà.
La plupart des lecteurs avec qui j'ai pu parler à la suite de la fable me disaient je regarde différemment le ticket de caisse dorénavant. Je ne prétends pas avoir la paternité de cette idée-là, mais le fait de l'avoir transmise, cette idée que finalement sur ces documents-là des fictions étaient présentes, il s'agissait juste de les
Et
de multiples fictions, parce que quand je vous disais que je constitue un lexique, mais un lexique de 5 mots, c'est-à-dire un ticket sur lequel il y aura peu de choses, est beaucoup plus facile à
travailler
qu'un ticket où il y aura beaucoup de matière et donc 15 ou 20 mots, parce que plus vous multipliez le nombre de mots, plus vous démultipliez le nombre d'histoires possibles.
Bon, on fait un exemple concret.
Allez, c'est parti.
Oui. Donc moi, j'ai choisi un ticket de caisse qui date du 16 janvier 2022. La Tordue, 196 rue des Pyrénées, 75020 Paris, tel 01 43 15 23 93. Votre ticket. Date, 16 janvier 2022, 12h13. Article, quantité, prix, montant. 1000 feuilles, 2,80€. Tarte citron ou religieuse, 2,80€. Tordu tradition, 1,15€. Total TTC, 6,75€. Carte bancaire, 6,75€. TVA inclus, auto indiqué. Certification Speedlab. Bon, là, il y a un numéro, je le dis pas. Signature, numéro de série, Edpos, caisse 1. Merci et à très bientôt. Là, vous relevez quoi, Anne-Jem Chaton?
Alors là, je vais relever tordu, tarte, citron, religieuse et tradition.
Et donc, je lis la fable attenante. Une enfant difficile. Vic créait sans cesse des problèmes à sa mère. Elle la rendait folle. Son dernier coup tordu était venu à la traditionnelle fête de famille en habit de religieuse. Mais qu'avait-elle donc dans le citron? Lorsque la jeune fille se présenta sur le pas de la porte de la maison, sa mère lui colla une tarte et lui indiqua le chemin de sa chambre. Bon, voilà, là, c'est un exemple concret. À partir de ce ticket de caisse arrive cette micro-nouvelle que vous n'appelez pas ni micro-nouvelle, ni micro-fiction, ni texte court, ni que sais-je, mais fable. Pourquoi est-ce que ce mot est important pour vous, Anne-Jem Chaton?
Bah, parce qu'il va immédiatement placer les textes ce livre, le livre qui donc comme vous le disiez publie à la fois le facsimile des tickets, voilà. et la fable en qui est liée, parce qu'il va d'emblée faire appel à un imaginaire, et un imaginaire notamment enfantin, puisque les fables, c'est les contes, c'est-à-dire c'est la fontaine, c'est un rapport à l'enfance et à une des formes par lesquelles chacun d'entre nous
entre dans
la littérature, oui. Mais aussi d'une façon orale, c'est-à-dire que souvent les premières fables, enfin les premiers écrits, on nous les lit, ou alors
on nous demande de les réciter, donc les réciter aussi,
dimension orale et sonore.
Il y a quelque chose justement de ce jeu avec les mots et d'un jeu sonore avec les mots. Donc on l'entendait là. Bon, c'est l'endroit où vous faites ces courses qui s'appelle la tordue. Et d'un seul coup, dans la fable, eh bien c'est le dernier coup tordu de l'enfant. Il y a, j'imagine, une tradition, donc une baguette que vous achetez dans cet endroit-là, Anne-Jem Chaton. Et d'un seul coup, ça devient la traditionnelle fête de famille. Donc il y a vraiment un jeu sonore avec les mots. Et puisque vous parliez d'Olivier Cadio, qui publie lui aussi un art poétique. Et à qui vous faites un signe dans l'une des fables. On va l'écouter. Ici, c'est un extrait d'un film qui s'appelle « Dans l'atelier », un documentaire de Pascal Bouénic en 1996.
1, 2, 3, 4, 5... Ah ! Pour être fidèle à la question de la poésie ou de l'invention en poésie, moi, j'ai choisi l'option de pousser la poésie jusqu'à ses extrêmes, c'est-à-dire, si on veut être fidèle à la poésie, on est obligé de faire la poésie sonore, par exemple. C'est-à-dire d'aller flirter avec le son. Alors ça peut aller travailler avec des électroacousticiens, ça peut être avoir envie de prendre des micros, d'enregistrer. Bon, ça je sais pas le faire, mais j'ai envie. Ça donne envie aussi d'aller du côté de la musique, travailler avec des compositeurs, faire un opéra. Bon, ça peut donner envie de faire du théâtre, parce qu'à ce moment-là c'est le dispositif, c'est pas le théâtre comme problème de comédien qui m'intéresse, mais c'est le dispositif sonore, comme un dispositif sur la page. C'est absolument des questions poétiques. Mais c'est intéressant d'expérimenter, d'aller jusque-là. Ça pourrait aller jusqu'à aller faire des installations, donc terre plastique pour y revenir. On a envie de... je sais pas, de faire des choses beaucoup plus conceptuelles et visuelles. Et étrangement, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rassembler ces expériences. Et finalement, pour être encore plus fidèle à la poésie, je suis obligé de faire des romans, quoi.
La jeune voix d'Olivier Cadio, il y a 30 ans, en 1996, disant, voilà, pour finalement inventer encore, nouvellement en poésie, je dois la pousser à ses extrêmes, sortir du poème, aller vers le son, aller vers l'installation, pourquoi pas aller vers le théâtre, toute chose qu'il a faite par ailleurs. Et pour faire de la poésie, il faut continuer à faire du roman. Vous avez dit, il a été important dans mon parcours, Olivier Cadio, son art poétique, vous lui faites signe aussi, parce qu'il y a un ticket chez Gilbert Joseph, vous achetez à la fois l'art poétique, mais aussi l'irréparable, et puis vous...
Je rachète l'art poétique, parce que certains des tickets, voilà, ils sont intentionnels. Enfin, assez peu. Mais celui-ci, en l'occurrence, l'est. C'était un envoi, comme on l'appelle. Oui, Olivier Cadio, je me souviens très bien du premier moment où on s'est rencontrés. C'était, je pense, après la sortie du premier volume de la, RLG, Revue de littérature générale. Et avec Pierre Alféry, ils étaient venus à l'époque. Moi, j'étais étudiant à Besançon et j'étais déjà aussi un acteur de revue. J'ai dirigé une revue qui s'intitulait The Incredible Justin Adventures. Ils étaient venus présenter ce premier volume.
Donc c'est une revue qui a été très importante dans la littérature et dans la poésie contemporaine française. Contemporaine,
oui, parce qu'elle a présenté un champ tout à coup qui
s'ouvrait.
Qui s'ouvrait, qui surgissait comme ça, de la manière dont Caillou le disait à l'instant, c'est-à-dire qu'il allait à la fois prélever dans l'en-deçà du texte, l'en-deçà du livre, et dans tous ces au-delà possibles, et qui l'exposait dans un pour le coup. Alors là, il y avait aussi ce qu'on appelle le volumen, c'est-à-dire cette espèce de livre, mais très imposant, parce que le premier volume de la RLG, c'est un pavé, quoi. Et tout ça a été compris dans ce numéro, et dans tous les auteurs qui les accompagnaient, puisque la force et la richesse d'une revue, c'est juste cet effet de nombre, effet de collectif, effet de...
Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on entendait dans les propos d'Olivier Cadio l'idée que dans la poésie et sa potentielle inventivité, il y avait le son et qu'il fallait aller y voir, évidemment, ce qu'il a fait, et aussi Pierre Alféry et bien d'autres. Vous avez une pratique sonore, Anne-Jem Chaton. Qu'est-ce qu'il y a de tout ce rapport au son dans Fable et dans ce projet autour des tickets de caisse?
Tous mes travaux d'écriture passent à un moment donné par un rapport au son et à la rythmique sonore, et notamment dans la lecture. Et je reviens justement à la façon dont on va lire un ticket de caisse. Vous avez certainement déjà fait l'expérience. Vous faites des courses dans un supermarché. Vous avez un ticket long comme le bras. Mmh. Vous jetez un œil dessus et vous avez l'impression de l'avoir lu.
Mm-hmm.
Vous avez une lecture photographique flash qui fait que qui dénote déjà votre grande intimité avec ces écritures là. Et la seconde étape, c'est l'étape où commence déjà peut-être à surgir le récit qui va arriver par la suite. C'est une lecture qui n'est pas linéaire. C'est une lecture qui va les capter. C'est l'œil qui va choisir en fonction, pour le coup, des éléments typographiques ou sonores du ticket, qui va les choisir. Des mots vont se détacher de cette maxi textuelle. Et c'est ça qui va déplier le lexique qui va arriver par la suite.
Je voudrais qu'on écoute la voix de Carole, auditrice, qui, je crois, a complètement compris cette idée-là d'un rapport très plastique à la lecture. On l'écoute.
Bonjour le Book Club, bonjour James Chaton. J'ai l'impression que vous vous êtes bien amusé, et moi aussi forcément. C'est incroyable qu'à partir d'une règle du jeu, d'une contrainte presque mathématique que vous avez créée et que vous vous êtes imposée, vous êtes arrivé à me faire participer. C'est comme un jeu de piste, c'est interactif. Mes yeux ont opéré un aller-retour incessant entre le texte et le ticket pour y trouver les éléments de dramaturgie que vous y avez puisés. Chez Carrefour, Leroy Merlin, Midika et autres. Anne-Jem Chaton, j'aimerais vous poser une question. Comment avez-vous choisi ces tickets? Est-ce que c'est parce que certains vous inspiraient plus que d'autres, donc pour leur contenu ou pour leur aspect graphique? Parce que j'ai eu l'impression parfois de me retrouver face à une exposition de motifs. Merci pour votre réponse.
Ben on y vient. Merci à vous, Carole, pour cette lecture attentive. On l'a un petit peu dit, Anne-Jem Chaton, mais si on continue
il y a encore à dire
sur cette idée du choix.
Alors le choix, oui. Alors, effectivement, il y a aussi certains tickets que je n'ai retenus qu'en raison de leur graphie. Là, j'en cherche un que je trouve, pour ma part, magnifique, qui vient d'Italie. Alors, il y a celui-là, la page 240, vous avez un château fort qui apparaît. Alors, ou celui-ci aussi... qui a un ticket de carte bleue qui vient d'Alexandrie en Égypte. Là, le choix s'est fait pour faire apparaître dans le livre d'autres alphabets, d'autres écritures.
Parce que vous avez la chance, en effet, de temps en temps, d'avoir des tickets de caisse qui sont ornés. Par exemple, là, je vois qu'en Sicile, vous avez, vous ou quelqu'un d'autre, séjourné au Magione del Re Sicilian Rooms. Bon, il y a du joli graphisme.
Voilà, certains, c'est simplement le graphisme qui me les a fait... conservés. D'autres m'ont été... Alors, je n'ai pas, ce ne sont pas que des tickets qui m'appartiennent, puisqu'il y en a qui viennent du monde entier. Donc
projet collectif.
Voilà, presque. C'est un projet collectif. Ouais. Des amis m'en ont ramené. J'ai également lancé des demandes sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai reçu des tickets de personnes que je ne connaissais pas, que je profite de...
Merci à eux.
De les remercier. Donc ça a été un autre élément de sélection, c'est-à-dire que le monde entier, au travers de ce seul type de matériau d'écriture,
puisse entrer dans un livre.
Alors il n'y est pas complètement, mais en tout cas un certain nombre de parties du monde sont présentes dans le livre, et donc possiblement des contes et des fables du monde entier.
Alors justement, allons à Tanger. On se lance dans une autre lecture. Cette fois-ci, c'est vous qui allez lire le ticket de caisse. Et puis ensuite, la fable qui est attenante. Et moi, au milieu, je lirai la ponction des mots. Et puis juste après, on entendra le cinéaste Jean-Luc Godard sur la notion de montage.
Restaurant. Pan, hôtel Scharf, Tanger, table 12, serveur Scharf, 1 couscous poulet 75-00, total 75-00 DH, vendredi le 09-06-2023 à 11h57-18, merci de votre visite.
Et là, dans ce ticket vous ponctionnez, m'avez-vous dit, restaurant, pan, hôtel Scharf, Tanger, table, couscous et poulet. On vous écoute pour la fable qui s'appelle « Le coup de feu ».
Scharf était tranquillement assis à une table de son restaurant préféré. Le maître d'hôtel venait de lui servir un couscous agneau quand il entendit un pan strident. Certainement un coup de feu. Les poulets allèrent appliquer dardard. Il prit la tangente sans demander son reste.
C'est quelque chose qu'avait ce... peut-être certains peintres à l'intérieur du tableau, mais oui. Uniquement à l'intérieur du tableau. Et du reste, que Eisenstein a reconnu et qui, chez Gréco, pour lui, et il appelait le Gréco le grand monteur de Tolède. Si les montages, souvent, ce qu'on appelle le montage chez Eisenstein, qui n'est pas du montage, font de l'effet, ce n'est pas du tout que les plans soient les uns après les autres, c'est que ces plans, les uns après les autres, ont été pris selon un angle très savant et très prémédité qui fait que leur choc produit quelque chose. Voilà. C'est un rapport.
Ça, c'est une chose qu'on remarque.
C'est établir un rapport sciemment, plus un rapport avec le public physiquement, plus un rapport de sens, et qui fait qu'après, on voit les choses.
La voix du réalisateur Jean-Luc Godard dans les entretiens diffusés en 1998 sur France Culture, les entretiens à voix nue. On a assez peu parlé du geste de montage jusqu'à maintenant, Anne-Jeanne Chaton. Pourtant, il est très important. Il est important dans les tickets que vous choisissez, dans le fait de décider avec votre éditeur que le ticket fasse juste face à la fable. Et ça crée quelque chose, ça crée un rapport. Les fables entre elles, ça crée un rapport. Est-ce que ce dont parle Godard de mise en relation vous parle?
Oui, c'est-à-dire c'est finalement le geste. Je ne suis finalement que celui qui relie à un moment donné des éléments, des matériaux qu'on aurait pu considérer comme hétérogènes ou hétéroclites. Ceci incluant à la fois le ticket, l'écriture. Mais alors l'écriture comme outil, comme technique, comme technologie, la forme littéraire, la fable, l'objet livre et tout ce qui va aller ensuite avec, c'est-à-dire l'éditeur, le graphiste, le maquettiste, etc. Donc oui, moi j'établis, je rassemble quelques rapports.
Mais ce que dit Godard, c'est que on voit autre chose, ça fait naître autre chose. Oui. Alors ce serait quoi? Depuis tout à l'heure, on a assez peu parlé des fictions qui naissent au sens des mondes fictionnels que vous créez, Anne-Jem Chaton. Est-ce qu'il existe une cohérence de ce monde fictionnel dans lequel évoluent tous les personnages de toutes vos fables? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient se créer comme ça, comme un autre univers à partir de tous ces rapports?
Oui, mais je pense que ces mondes fictionnels deviennent véritablement existants lorsque, comme le disait votre auditrice, ou comme peut-être certains lecteurs l'expérimenteront, eux-mêmes, en présence d'un ticket de caisse, après avoir fait des courses, vont tout à coup voir apparaître
des histoires,
une fable dans un... Et ça va très vite. Il suffit de... Comme je vous le disais, ce premier rapport, qui est un rapport de lecture flash, où vous repérez 3-4 mots, sont suffisants pour tout à coup mettre en branle un imaginaire. Alors, après la fable elle-même, c'est-à-dire le fait de dessiner véritablement l'histoire, et d'y mettre un point final, c'est pour plus tard, en quelque sorte. C'est un exercice. Mais ce premier rapport où tout à coup le fictionnel surgit dans un environnement et sur une matière écrite qui pouvait sembler jusqu'à présent leur être étranger, c'est à ce moment-là, je pense, que le rapport se fait. Donc, il se fait même antérieurement et en dehors du livre.
Et après le livre, c'est presque,
et après le livre,
c'est
oui.
presque ce que génère le livre comme étant une mise en route. Finalement, tout à l'heure, vous avez dit, quand je lis des livres, ces livres me font écrire. D'une certaine manière, c'est comme s'il y avait une sorte de projet un peu performatif, quoi, d'art, oui. Jim Chaton. C'est-à-dire, je me suis adonné à un long exercice pendant plusieurs années. Ce qui m'intéresse, c'est non seulement que vous lisiez mon livre, mais surtout que le monde soit peuplé de nouvelles personnes qui, en lisant leur ticket de caisse, fabriquent de la fiction.
Ouais.
Oui, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait de nous transformer en personnes fabricantes de la fiction? Sachant qu'en fait, on le fait beaucoup.
Bah. Oui, mais je pense que chacun peut devenir à cet endroit-là un littérateur. Mm-hmm. Et que chacun puisse se dire que la littérature n'est pas hors du monde. Elle est dans notre monde, elle nous environne en permanence. Et on fait sans cesse, on peut sans cesse faire des passages, même dans une journée, dans un mois, dans une semaine. Après, chacun développe ses temporalités. Mais il y a des ponts. Les ponts sont, il y a de nombreux ponts entre ce qu'on appelle la littérature et ce qu'on appelle le monde réel.
Et ça change quoi à la vie, Anne-Jem Chaton? Ça produit quoi comme modification de sentiment d'existence?
Ben je pense que ça change la littérature, mais ça peut aussi changer le monde. Ça va dans les deux sens.
Alors prenons les choses dans l'ordre. Pourquoi ça change la littérature?
Ça change la littérature parce que ça la fait parler autrement. Ça la fait prendre en charge des matériaux et des langages qui, peut-être, elle avait tendance à considérer comme étant hors de son champ, ou qu'elle regardait de loin. Et dans l'autre sens, ça permet... Dans un quotidien le plus banal, le plus anodin, ça permet d'enchanter notre rapport au monde et d'en faire. Alors quand je dis enchanter, je suis pas dans
c'est pas le merveilleux.
Non, c'est pas le merveilleux. C'est une façon peut-être de rendre possible d'autres manières de parler du monde. Et de faire surgir, donc, pour le coup, d'autres sens possibles.
Notamment en modifiant nos attentions, si je vous entends bien.
Mais oui, mais la communication entre nous, elle n'est pas que de l'ordre des intentions de ce qu'on veut dire. C'est aussi les mots qu'on utilise et la façon qu'on a de les mettre les uns derrière les autres, de fabriquer des phrases. Et je crois que le fait de se rendre compte qu'à un moment donné, ces opérations de langue, de langage, de reconstitution de langage, de recomposition du langage, de voir le langage tout à coup, ou même le langage très informationnel, le voir fonctionner différemment, il permet d'envisager que tout type de langage peut se mettre à fonctionner différemment. Et à partir du moment où...
Et alors, allons plus loin, justement, une fois qu'on a dit ça, Anne-Jem Chaton, ça a quoi, par exemple, comme conséquence? Une fois qu'on a réalisé que tout type de langage peut se mettre à fonctionner différemment, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? Y compris, pourquoi pas, politique?
Oui, c'est la possibilité de faire naître un nouveau sens. Moi, j'ai toujours en tête un des motifs pour lesquels, par exemple, Schwitter se compose la Ursonate. Donc, une première pièce de phonétique, de poésie phonétique. Pourquoi est-ce que Schwitter va se mettre tout à coup à décomposer la langue allemande, à concasser les mots en phonèmes pour réinventer une langue. Une des raisons pour lesquelles il le fait, c'est parce que on sort de la Première Guerre mondiale et les dadaïstes considèrent que le langage est en partie responsable de la catastrophe qui est survenue. Parce que ils disent, et je pense qu'ils ont raison quand ils disent ça, ils pensent que le sens que nous partageons, les mots que nous partageons, se sont trop longtemps sédimentés. Ils ne sont plus vivants. Le sens, finalement, le sens ne circule plus dans le langage que nous parlons. Et l'opération qu'ils sont en train de faire, c'est de dire, puisque le sens s'est sédimenté et donc il n'est plus vivant, l'effet en étant en partie le fait qu'on ne se comprend plus, et donc on ne se comprend plus, on fait la guerre. Et qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là?
Éviter la calcification, voilà. Et faire bouger les choses.
Il faut désédimenter le langage, le recomposer, et le refaire se mouvoir différemment, lui redonner une autre rythmique, une autre. Et je pense que toute opération littéraire qui va dans cette direction-là nous permet de faire sonner et de faire signifier les mots que nous échangeons différemment.
Une dernière lecture ? Un ticket de caisse et une fable ?
Oui, alors laquelle
Bon, je sais pas, moi je...
Ouais. Vous avez une préférence ? Ah, moi j'en ai une.
Allez-y.
J'en ai une que j'aime bien parce que...
Mais vous faites tout le boulot dans ce cas, vous lisez et le ticket de caisse et la fable.
C'est un ticket qui a une histoire un peu particulière, qui vient il vient de San Francisco.
Allez.
Alcatraz, San Francisco, CA 98. Cashier Gabriel, transaction date February 1924. Items alu quantity price. Sal PC Land as Capone. 1 item sold. Payment method amount credit card Visa. Thank you for sporting your parks. Exchange or received credits refunds within 30 days with receipt. No cash refunds. Question email US at park store. Etc.
Okay. Et la nouvelle qui correspond ?
Alors, la nouvelle qui correspond, les mots prélevés, Alcatraz, Capone, retour, question, ristourne, or, marchandise, cash, méthode, organisation, solde, Golden Gate, recevrait. Le gangster. Quand les portes de la prison d'Alcatraz se refermèrent sur lui, Capone sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Pas question d'envisager une ristourne sur sa peine. Il avait accumulé des montagnes d'or en écoulant sa marchandise dans les bars de Chicago et il payait cash les méthodes brutales de son organisation. Aujourd'hui, c'était solde de tout compte. En remerciement de ses services rendus à la nation, il recevait une vue imprenable sur le Golden Gate de San Francisco.
Et bah comme quoi, dans Ticket de caisse, on peut aller très loin. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et comme chaque semaine à cette heure-ci, on prend des nouvelles de la littérature à l'étranger, on part aussi en Autriche aujourd'hui, on retrouve à Vienne notre correspondante Isor Iyash. Bonjour Isor.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une des plus grandes écrivaines autrichiennes, Elfriede Jelinek, qui fut prix Nobel de littérature en 2004, et plus précisément de l'une de ses pièces qui s'appelle Burgtheater, qui a été créée il y a plus de 40 ans et qui est jouée en ce moment à Vienne.
Oui, cela faisait en effet 40 ans que cette pièce n'était pas jouée. Et pour le comprendre, il faut revenir à la première donnée à Bonn en Allemagne en 1985. Cette pièce met en scène une célèbre famille d'acteurs autrichiens et dénonce leur soutien au régime nazi. Elfriede Jelinek, elle-même née en 1946, au lendemain de la guerre, ne cherche pas ici à s'attaquer à des personnes individuelles, mais plutôt à montrer la culpabilité enfouie et l'hypocrisie de l'Autriche. Car encore dans les années 80, le pays se présente comme une victime d'Hitler en dépit de la participation des Autrichiens aux crimes nazis. Et c'est d'ailleurs bien cela qui a provoqué un scandale lors de la première. Jelinek a été taxée de traîtresse, de souilleuse de nid, et a fini par interdire la représentation de cette pièce. Elle a finalement accepté que Milo Rau la mette en scène dans le cadre du festival qu'il dirige, les Wiener Festwochen, qui se tient en ce moment à Vienne et se termine le 22 juin prochain.
Et l'Autriche, Isor, a parfois maltraité certains de ses écrivains.
Dans le cas d'Alfredo Jelinek, en tout cas, c'est une évidence. Quand on relit certaines archives, on est abasourdi par la violence des attaques qu'elle a subies. Le propos même de la pièce Burgtheater, qui est bien plutôt la perversion du langage et ce que celle-ci permet, a été laissé de côté. Un cas qui rappelle celui de Thomas Bernhardt, dont la pièce Place des Héros, jouée 3 ans plus tard, en 1988, au Burgtheater, avait provoqué l'un des plus grands scandales de l'histoire du théâtre autrichien. Là aussi, il avait été violemment attaqué. Mais finalement, cela montre qu'en Autriche, ce sont surtout les écrivains qui ont confronté le pays à un passé qu'ils ne voulaient pas assumer. C'est sans doute cela qu'on leur a fait payer. Et pourtant, sans eux, l'Autriche ne serait pas ce qu'elle est. Ces écrivains sont d'ailleurs lus aujourd'hui encore dans le monde entier, et à juste titre.
Et aujourd'hui, Isor, est-ce que l'œuvre d'Alfredo Jelinek est mieux acceptée en Autriche ?
Oui, on n'est évidemment plus dans le contexte des années 80 et entre-temps, elle a tout de même obtenu le prix Nobel de littérature. Mais elle reste aujourd'hui l'une des cibles de l'extrême droite car elle continue d'écrire régulièrement des textes sur son site internet en appuyant là où cela fait mal car Alfredo Jelinek, hier comme aujourd'hui, nous invite inlassablement à penser et surtout à penser contre nous-mêmes.
C'est ce que fait aussi sa pièce Burgtheater.
La pièce, oui, mais la mise en scène de Milo Rau, en revanche, est décevante car on n'entend qu'une partie du texte de Jelinek et qui est comme noyée au milieu d'autres propos assez attendus. Il est intéressant d'ailleurs de constater que la presse autrichienne a globalement salué cette mise en scène, tandis que la presse allemande était bien plus critique. Je vous conseillerais donc bien plus de lire Alfredo Jelinek, qui a été fort bien traduite en français et éditée chez Jacqueline Chambon, Au Seuil, L'Arche ou encore chez Verdier. La pianiste, bien sûr, adaptée au cinéma par Haneke, mais aussi Enfant des morts, où l'audace de sa langue et sa radicalité politique et esthétique se déploient entièrement.
Merci beaucoup, Isor Ias. Lecture sans frontières à réécouter sur franceculture.fr. Et on termine comme chaque jour par les pages musicales. Nous aussi, on aime bien jouer. Anne-Jem Chaton, on propose à nos auditeurs et auditrices de repérer la musique partout où elle surgit, dans les textes. Donc, ils envoient des photos, des textes qu'ils sont en train de lire. Et nous, on fait une petite collecte. Et tous les jours ou presque, on pioche dans cette collection. C'est une auditrice, j'imagine, ou peut-être un auditeur qui s'appelle Mandarine Citron sur Twitter et qui nous a suggéré un extrait de L'Angevine de René Fallet, paru en 1987. Il pénètre dans le Mistral, beaucoup de clients. Il s'assoit, bon, elle est en retard. Il regarde autour de lui. Là-bas, une fille en chemise indienne bleue, trop belle pour lui. Ferrier sait ses limites. Reluque ailleurs, une autre fille, entre deux os celle-là. Probablement l'élu. Pas du tout. Ferrier est trop modeste. La chemise indienne bleue se lève, vient à lui. Régis Ferrier ? Oui, je suis Christine Labbé. Nom de Dieu, voilà qui change tout. Il ne rentrera pas dîner. Christine s'assied en souriant, en rougissant. Fraîche, ne paraît même pas ses 29 ans. Belle, oui. Belle comme le franc suisse, juge-t-il en un éclair. Longue et blonde. Très longue, très blonde. Tennis woman suédoise. La fille aux cheveux de lin, prélude de Debussy. Merci beaucoup, Anne-Jem Chaton, d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour évoquer Fable, votre livre de fables, écrit à partir de Ticket de caisse. C'est paru aux éditions POL. Au son, aujourd'hui, c'était Mineta Diawara, à la réalisation Daphné Leblon. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement aujourd'hui à Jeanne Aléos. Vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club et le réécouter via l'application Radio France.
Question du soir, première partie, étude de genre. Pourquoi tant de polémiques ?
Quentin l'a fait.
Et puis dans l'actualité, vue par les idées et la recherche, comment étudier les élites économiques ? Comment comprendre qui elles sont ? Comment elles vivent du point de vue scientifique ?
Question du soir, du lundi au vendredi à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les éditions Radio France présentent
5e République, anatomie d'un régime en crise.
Un livre de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina.
Comment notre constitution a-t-elle évolué jusqu'à aujourd'hui ? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle ? S'agit-il d'une impasse politique ou structurelle ? En 45 questions, nous décryptons son histoire et son fonctionnement pour mieux comprendre.
5e République, anatomie d'un régime en crise, de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina, un livre France Inter, clair et accessible, enrichi d'infographies et de documents complémentaires.
Il est bientôt 16h sur France Culture et c'est l'heure de vous retrouver, Natacha Triou, pour la Science Sécu.